BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, on va tenter de garder la tête froide dans un monde du travail en plein bouleversement. En première partie d'émission, on recevra Diane Rivière et les DRH d'Alan. Alan, c'est cette start-up qui veut fabriquer l'entreprise sans biais, sans manager, sans négociation salariale, sans réunion et aussi parfois sans bureau. On va leur demander s'ils ne vont pas un peu trop loin et surtout si ça marche. Et puis en deuxième partie d'émission, de Bible du management, nous rejoindrons Philippe Salle, ancien patron d'Elior et d'Alan. Aujourd'hui à la tête de Foncia, et puis Guillaume Poitrinal, ancien patron d'Unibail Rodemco, qui a lancé Wood et Homme. Ensemble, on essaiera de penser le management de demain. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est la DRH d'Alan, Diane Rivière. Bonjour.
Bonjour Laure.
Alors, est-ce que vous êtes une vraie entreprise? Parce que quand on a pas de manager, qu'on ne fait pas de négociation salariale, pas de réunion et que parfois on laisse ses bureaux, vous travaillez dans la santé, mais est-ce que vous êtes une vraie entreprise de santé?
Eh bien, voyez, je ne suis pas un hologramme. La DRH est une, en chair et en os.
C'est une personne.
Et oui, nous sommes, est-ce que nous sommes seulement une entreprise? Nous sommes peut-être un peu plus qu'une entreprise. Nous sommes un collectif qui veut transformer le système de santé. Et pour y parvenir, nous nous sommes dotés, dès les premiers temps d'Alan, d'une culture unique qui privilégie le bien-être de nos collaborateurs. Alors pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que si notre mission, c'est de transformer la santé, d'apporter une expérience beaucoup plus simple du système de santé à tous nos membres, eh bien, en symétrie d'attention, en interne, il est essentiel que nous puissions apporter ce même confort de fonctionnement, cette même liberté de travail et donc le bien-être qu'on vise pour nos collaborateurs.
Vous dites depuis notre création, on a un esprit particulier. La création, c'est 2016, c'est pas il y a très très longtemps. En 2016, vous êtes quoi? Non, vous êtes 14 il y a 2 ans, donc on est carrément même pas en 2016, en 2018. Vous êtes 189 en 2020. Comment on fait pour développer la culture d'entreprise quand on a une croissance comme ça permanente de salariés, donc des nouveaux en permanence? Qu'est-ce qu'on leur dit de la culture d'entreprise quand ils arrivent?
Alors justement, et j'en parle avec 3 mois d'ancienneté chez
Alan.
Oui,
c'est vrai, on va en parler aussi. Vous venez d'arriver dans l'entreprise.
Mais je crois que c'est justement la volonté des fondateurs, dès la création d'Alan, d'avoir mis beaucoup d'énergie et d'efforts et de temps et d'avoir centré l'équipe autant sur la constitution de cette culture d'entreprise et la manière dont elle allait être diffusée que sur notre produit pour nos membres. C'est-à-dire qu'il y a une conviction dès les premiers temps d'Alan que ce qui fera notre réussite, c'est justement de partager avec beaucoup de soin, et je vais vous expliquer de quelle manière on le fait, ce qui est singulier à notre manière de travailler.
Alors qu'est-ce qui est singulier? Parce que moi j'ai l'impression que ce que vous essayez de créer à travers l'absence de négociation de salaire, pas de les congés illimités, etc., c'est qu'en fait vous refusez les biais. Vous refusez les biais de l'entreprise qui font par exemple que quand on recrute quelqu'un, on fait des choix d'affinité, on prend les gens qu'on connaît. Vous voulez lutter contre ça?
Alors, en effet, on est lucide et vigilant à recruter de façon la plus neutre et bienveillante possible avec l'ensemble des candidats. Donc oui, nous sommes particulièrement attentifs à cette question-là. Mais surtout, je pense que ce qui nous singularise dans notre culture, c'est d'avoir une ce qu'on appelle la responsabilité distribuée. C'est-à-dire que nous n'avons pas de manager, en effet. Nous n'avons pas de réunion parce que nos prises de décision se font de façon asynchrone, à l'écrit, et c'est aussi un des leviers qui nous a permis de traverser cette crise. Voilà. C'est-à-dire que ce qui permet aussi aux nouveaux de s'intégrer, parce que tout ce que nous avons produit, toutes les raisons pour lesquelles on a pris des décisions par le passé sont disponibles à tous ceux qui arrivent et qui peuvent prendre connaissance. Alors évidemment, c'est
ça, c'est la méthode de Jeff Bezos, hein. Chez Amazon, ils font beaucoup ça.
Alors, j'ai passé 4 ans chez Amazon.
Ah bah voilà, c'est ça, vous êtes marqué.
Je suis habituée à cette culture de l'écrit. Là, nous allons un cran plus loin chez Alan. C'est-à-dire qu'effectivement, on assume de dire on ne veut pas de réunion parce qu'on a observé que c'était moins efficace.
Mais ça veut dire que celui qui arrive chez vous, il lit tous les briefs, il passe 2 semaines à lire tout ce qui s'est passé dans les équipes autour de lui ?
Exactement, mais je vous rassure, on humanise aussi ce temps-là et bien évidemment, il est accompagné par plusieurs personnes qui sont garants de sa bonne intégration. Donc, il a pas de manager, mais il a un coach. Son coach est garant justement que cette intégration se déroule du mieux possible, que ses objectifs soient clairs, qu'il se mette dans les codes de l'entreprise, qu'il comprenne comment on travaille. Il a ce qu'on appelle un buddy, je ne sais pas si en français c'est peut-être une forme de mentor, ouais. Mais qui est un mentor métier. Et il a un mentor culturel, donc quelqu'un qui est peut-être dans une autre équipe ou dans une autre fonction de l'entreprise, qui n'est pas forcément dans son équipe proche, mais qui va l'aider à décoder comment nous travaillons. Et justement, le fait d'être à l'écrit, le fait de jongler avec différents outils et un niveau de sollicitation qui est important, le fait de prendre connaissance de l'information, mais de façon pertinente, sans se perdre, c'est le rôle de ces personnes qui l'entourent pour lui permettre
Parce
ensuite
que
d'être autonome.
Quand vous faites un recrutement, tout le monde participe.
Oui.
C'est mais du coup, tout le monde donne son avis. Ouais. Tout le monde a un avis sur les recrutements potentiels.
Alors, tout le monde... Pour un recrutement donné, ce sera 3-4 personnes qui ont un regard particulier sur le besoin d'Alan à ce moment et donc un avis pertinent sur le choix du candidat. Et oui, ça n'est pas dans les mains de la DRH, entre guillemets, parce que nous considérons que nous avons le plus de valeur ajoutée, équipe RH, c'est plutôt que le process soit extrêmement bien huilé et qu'on mette à disposition de toute l'entreprise les bons outils pour recruter avec la meilleure prise de décision possible.
Mais est-ce que vous, en tant que DRH, vous proposez des talents quand même ? Vous n'avez plus la main sur les recrutements ?
Alors, bien évidemment, moi je source comme d'autres, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que la responsabilité de sourcer des candidats, il y a le sourcing, la première étape, et puis ensuite, il y a toutes les étapes de sélection. Et donc, moi, comme tout un chacun, je peux être impliquée sur un processus de recrutement, soit de façon très légère, soit en être pleinement responsable. Mais si vous voulez, la vertu de cela, c'est que tout un chacun, un de nos collaborateurs, peut de bout en bout mener un process et aller jusqu'à faire une offre à un candidat en s'étant entouré de collègues dont la vie...
Chacun peut recruter.
Exactement. Et en fait, tous les trimestres, on revisite notre planning de recrutement et on regarde où est-ce que l'équipe Talent Acquisition, recrutement, l'équipe recrutement, a le plus de valeur ajoutée. Et certains recrutements se font complètement en autonomie par les équipes. Et parfois, on est très en soutien parce qu'il y a une stratégie de sourcing qui est plus complexe à mener et qu'on accompagne véritablement de bout en bout le process.
Donc vous êtes arrivé il y a 3 mois, en plein milieu du confinement, le 16 mars. Très bon timing. Du coup, c'était qui votre mentor à vous en tant que DRH ?
Alors moi, j'ai la chance d'être mentorée
par le dirigeant.
Mon coach, c'est Jean-Charles Samuelian, qui est notre CEO. Mais j'avais également un role buddy, donc quelqu'un qui m'a aidée sur le métier. Paul Sofplan, qui est en charge de toute la dimension legal, finance, risk, compliance, donc m'a accompagnée dans cette étape-là. Et j'avais également un mentor culturel, voilà, Bertrand.
Mais vous étiez un peu perdu quand même ou pas ? Parce que en plein confinement, vous prenez votre poste.
Oui, alors j'ai en définitive, j'ai comme tout un chacun dû me mettre dans les codes de l'entreprise avec nos outils à distance, mais je dirais qu'on utilise, comme beaucoup d'entreprises à French Tech, on utilise Slack, qui est quand même un outil très vivant, très communicatif, très collaboratif et qui...
Donc vous avez fait votre intégration sur Slack ?
Bah écoutez...
Comme tout...
Oui,
ouais,
et aussi en visio, et aussi effectivement en me mettant dans la connaissance de l'entreprise, parce qu'on a une base de données répertorie par sujet, qui est super dynamique aussi, qui est très, très convivial, qui répertorie toute la connaissance de l'entreprise.
Voilà. Alors, on va faire notre petite interview. Stop encore. Vous me dites rapidement si on continue avec les pulls logotés. J'ai vu que ça, vous adorez les pulls logotés.
Bah oui, parce que ça, c'est le sentiment d'appartenance.
Les feedbacks 360, c'est quand on se met au milieu et tout le monde donne son avis. Si tout le monde peut recruter, j'imagine que...
Plus que jamais, parce que c'est très vertueux et ça permet de s'améliorer, de continuer à apprendre.
Les baby-foot.
Alors, non.
Vous n'avez plus beaucoup de bureaux, donc...
On n'a jamais eu de baby-foot, et pour moi, c'est un peu le cliché de la cool attitude des startups
des années 2000.
C'est cliché,
mais figurez-vous qu'il y en a encore. Il y en a même qui en achètent. Hein. Le marché du baby-foot se porte relativement bien.
Certes, écoutez, nous, on propose plutôt une salle de sport, des cours de yoga, voilà.
Alors, le chief happiness officer, vous en avez un ?
Non, et moi, je dis stop, parce que c'est pas... je trouve que c'est une illusion de dire qu'on va prendre en charge le bonheur des gens. C'est pas notre vocation. Et je crois qu'il faut être un peu plus humble aussi par rapport
les
à ça.
Les Zooms et les Teams et les Slack. Là, c'est votre
tous
manière
les
de fonctionner.
Outils oui. Qui seront, qui vont rendre en fait encore plus convivial et fluide l'expérience de travailler à distance. Bien sûr, il faut continuer à investir.
Les robots recruteurs.
Ah, oui et non. Oui, sur certaines étapes sur lesquelles il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée humaine. En revanche, bien évidemment, le recrutement, ça reste une rencontre.
Les congés illimités ?
Non. Pourquoi ? Nous, on ne parle pas de congés illimités. Chez Alan, on parle de congés flexibles parce que c'est une forme d'illusion aussi. Et on s'est rendu compte que de dire illimité, en définitive, dans un marché de l'emploi français où on a légalement 25 jours de congés, des RTT, eh bien, la pratique, c'est qu'on en prend moins. Et nous, notre préoccupation, c'est justement que nos équipes prennent des congés. Donc on est plutôt flexible, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'accord d'un manager, on a besoin bien sûr d'informer son équipe, mais on laisse en définitive chacun s'organiser et chaque équipe s'organiser.
En un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes, vous recrutez encore pour cette année ou pas ?
Oui, plus que jamais, et nous allons accélérer.
On est sur combien de postes à peu près là sur l'année ?
On est sur plusieurs dizaines. On est en train de revoir notre plan de second semestre, pour tout vous dire.
Mais il y aura donc toujours des ouvertures de postes importantes.
Oui, et nous recrutons dans les métiers de l'ingénierie, de la data, du design produit. Voilà.
Merci beaucoup, Diane Rivière, DRH de chez Alan, d'avoir été avec nous. On va passer à notre deuxième partie, Better Together, avec deux, allez, je suis peut-être pas très sympa, mais je vais dire deux monstres du management.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va essayer de faire mieux ensemble avec deux hommes qui connaissent l'humain, l'organisation du travail et l'immobilier. Philippe Salle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Foncia, ancien patron d'Elior, et d'Altran. Guillaume Poitrinal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien patron d'Unibail Rodamco, aujourd'hui à la tête de Woodeum. Alors si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que je le disais en rigolant, mais c'est parce que je suis trop jeune pour cette crise et que j'ai du mal à garder la tête froide face à la révolution du télétravail, à la mutation des organisations. Alors vous qui avez connu différentes crises, qui penser le monde du travail et du management. J'aimerais connaître votre avis, votre vision. Alors Philippe Salle, est-ce que vous arrivez à garder la tête froide quand par exemple vous tirez ne serait-ce que le fil du télétravail ?
Ah oui, bien sûr. Enfin, on garde la tête froide dans le sens qu'on sent qu'il y a quand même un mouvement. Après, je pense que en fait, tous les, entre guillemets, les deux situations extrêmes ne sont jamais très bonnes. C'est-à-dire pas de télétravail ou 100% de télétravail, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Il faut
trouver un équilibre, en fait. Moi, oui. Toutes les équipes, oui, à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, j'ai même interdit le télétravail à partir de cette semaine. Simplement parce
interdit carrément.
On l'avait mis, en fait, jusqu'à vendredi. Et pour l'instant, simplement, et on a besoin aussi de revoir les équipes, parce qu'à un moment, il y a quand même besoin de cohésion. Et je pense quand même que, voilà, comme on était à 100% télétravail quasiment, on a perdu un peu de cohésion dans l'entreprise quand même.
Guillaume Poitrinal, vous partagez cette idée, le 100% télétravail, c'est nocif, notamment sur l'innovation, sur la cohésion ?
Ouais, le télétravail, c'est pas une innovation, en sens que depuis assez longtemps, finalement, il y avait pas mal de boîtes dans lesquelles il y avait le vendredi chez soi, etc. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait. Et puis pour les groupes internationaux, il y avait cette fameuse vidéoconférence qu'on a commencé à utiliser depuis un certain temps avec les progrès technologiques qui permettent de faire ça, parce que suffit pas de décréter, il faut encore pouvoir communiquer à partir de ça. Donc cet épisode, c'est le révélateur d'une tendance de fond. En tout état de cause, et à la fin on aura probablement à la fois du télétravail, ça dépendra des occasions, ça dépendra des métiers notamment, et puis un travail au bureau, mais le bureau il ressemblera plus, en tout cas il va pas ressembler, il est en pleine mutation déjà, hein. Il était en pleine mutation, il va pas ressembler à ce qu'il était, ça sera pas une collection de postes de travail avec des écrans devant soi, parce que ça si on peut le faire depuis chez soi, ça pose pas de problème. Par contre, ça va être un lieu pour se retrouver inventer ensemble.
Donc c'est une cafétéria géante, en fait, le bureau ensemble. De demain.
Oui, en fait, on s'aperçoit que le télétravail, et en tout cas la communication par écran, elle mobilise un sens et demi. Donc vous avez vos deux oreilles et un œil, parce que vous êtes en 2D et pas en 3D. Quand on est devant des gens en réel, on communique avec cinq sens, avec ces cinq sens. Et donc, en fait, l'information est très, très nettement démultipliée. Donc, les sensations, ce que la personne ressent, où est-ce qu'elle en est, vous sentez beaucoup plus de choses, évidemment, avec une présence physique. Et puis, il y a un deuxième élément, qui est l'élément de l'énergie, et donc de ce qu'on appelle l'émulation. Pourquoi est-ce que les jeunes vont dans des bibliothèques alors qu'ils ont chacun quand même, etc. Quand ils sont étudiants, tout simplement parce qu'ils recherchent de l'émulation. C'est-à-dire être ensemble et quelque part travailler et voir les autres travailler. Et ça, ça crée de l'énergie et de l'émulation.
Mais
et chez soi, c'est quand même pas tout à fait
comment
pareil.
Comment on recrée cette émulation? Parce qu'on voit bien là, le nombre d'entreprises qui ont du mal à faire venir les salariés. Vous dites, vous interdisez le télétravail. C'est bien qu'il y a des gens qui ont envie de rester chez eux. Donc comment on fait pour créer cette envie d'y retourner?
Mais il faut savoir que plus la période que l'on a vécue est quand même une période de choc pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'était pas que du télétravail, c'était aussi l'interdiction de sortir chez soi. Et je pense que ça a été quand même un traumatisme pour certains. Et donc c'est pour ça que simplement aujourd'hui, il faut remettre un petit peu le balancier de l'autre côté. Et je pense que de toute façon, au moment, on retrouvera, un équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura du télétravail, on va en faire plus chez Foncia, c'est sûr, comme beaucoup d'entreprises de services. La question maintenant, c'est est-ce que c'est un jour, deux jours, trois jours, voilà. En tout cas, quatre jours, cinq jours, la réponse est non. La question, c'est entre un et trois jours, et c'est là où il faut qu'on essaye de trouver le bon équilibre pour tout le monde.
Mais vous qui avez managé quand même maintenant peut-être des centaines, des milliers de salariés, comment vous leur donnez cette envie de vous suivre?
Ah ben ça c'est un ça alors ça c'est compliqué je dirais, mais disons que c'est ce que disait Monsieur Poitrinal, c'est l'émulation est très importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même se voir pour motiver, il faut quand même se voir, je pense que c'est compliqué quand même de motiver des équipes par des écrans parce qu'il faut quand même sentir les choses. Je pense que dans le management, ce qui est très important pour moi, c'est quand même justement la capacité d'avoir de l'empathie, de comprendre des situations qu'on peut pas comprendre, je dirais, uniquement en regardant des chiffres ou en regardant, je dirais, des mémos. Il faut vraiment, à un moment, avoir des interactions pour sentir des choses. Et même en réunion, il y a des choses que vous pouvez sentir que vous ne pouvez pas avoir par le télétravail.
Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est passé, du coup, à un management du cas par cas? Qu'on ne peut plus faire de collectif, on est obligé d'aller vers chaque situation personnelle. Vous parlez d'empathie, mais est-ce que vous faites un point avec chaque salarié pour savoir sa situation personnelle et son envie de revenir travailler?
Alors un point, c'est on fait des points avec les salariés. Moi avec mes N-1, oui, je les vois tous les mois. On s'appelle toutes les semaines pour certains, je les vois avec tous les mois, c'est sûr. Après, je dirais, ce qui est très important, c'est qu'il y a un point annuel pour tous les salariés. Nous, on gère à peu près 10 000 personnes, au moins pour pouvoir faire un point sur ce qui s'est passé, pour des perspectives, voilà, ça c'est très important. En management, par contre, je pense que c'est important pour moi d'avoir des interactions assez fréquentes. Et après, il y a des managers qui sont autonomes et d'autres qui le sont moins. Donc il faut aussi adapter son style de management en fonction de ses équipes.
Vous dites, Guillaume Poitrinal, que c'est la santé maintenant, l'argument fort dans la construction de bâtiments, c'est ce que vous faites chez Oudéum. C'est un argument d'attractivité aussi?
Ouais. Alors nous, notre partie bureau porte une marque qui s'appelle WO2. Donc ça, Oudéum fait que du résidentiel en fait aujourd'hui. Donc chez WO2, en effet, on a fait le constat qu'en fait, pour faire très simple, ces bureaux de demain seront des manifestes de l'entreprise. Donc c'est un message physique, là, polysensoriel, que l'entreprise va vouloir lancer à ses salariés, à ses fournisseurs, etc.
Regardez,
et on fait aussi le constat que sur les 32 millions de mètres carrés ou 34 millions de mètres carrés de région parisienne, il y en a 25 millions qui n'envoient aucun message. Si ce n'est, c'est le monde de la praticité, on va vous coller comme ça, les uns à côté des autres, comme des sardines, avec le minimum de mètres carrés par poste de travail, et puis c'est comme ça, et vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, il y a le choix. Et donc, ces bureaux, ça doit être des endroits de très forte communication, ils vont être faits très très différemment, ça va être des mélanges, finalement, d'hôtellerie, de centres de séminaires, avec beaucoup d'espace pour se voir, et beaucoup de liberté à l'intérieur, et ce sont des endroits où les gens vont vouloir se sentir bien. Donc, la question du bien-être qui est très liée à la question de la santé, elle va être essentielle pour les bureaux de demain. Absolument essentielle. La question, aujourd'hui, l'image de l'entreprise, c'est quoi? C'est le stress. C'est la pénibilité. C'est la souffrance. Très souvent, c'est ça, cette image de l'entreprise. C'est pour ça que beaucoup de jeunes disent, moi, je veux pas aller dans un grand groupe. je veux aller dans une start-up, elle sera dans le Marais, et ça sera sympa, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une entreprise. Est-ce que c'est un bar où on boit de la bière? Est-ce que c'est un endroit où on joue au baby-foot? Oui, on bosse un petit peu de temps en temps, depuis chez soi, depuis le bureau, etc.
Et puis après, ils y vont, ils se font rincer comme des citrons, et ils ont plus.
Ça, je vous laisse libre de vos propos. Je vous laisse libre de vos propos. Mais la réalité, elle est très simple, c'est que l'entreprise n'est pas un lieu de souffrance, et donc elle doit s'occuper de la santé des gens. Alors, on s'est aperçu qu'en construisant en bois, puisque nous, on construit avec Philippe Zifkovic essentiellement en bois, des immeubles où on remplace le béton par le bois, on s'est aperçu qu'il y a plein de bienfaits. Avec le bois, ben vous vous sentez mieux. S'il y a même des bienfaits qui sont prouvés du point de vue de la pression artérielle, le battement cardiaque, la question de stress, la manière dont vous parlez, le son, dont vous évacuez le son, il n'y a pas de rebond dans le bois, c'est très agréable. Et donc, on crée ces grands espaces en bois absolument magnifiques, baignés de lumière naturelle. Ce bois, c'est un matériau naturel, donc on va ramener de la nature. Partout,
et vous croyez
sur
que
chaque
le salarié,
plateau,
il va venir demander à l'entreprise, mais c'est en quoi votre siège?
Non, parce
que ça
en
va
fait,
l'intéresser.
C'est pas qu'il va pas pouvoir lui demander, c'est qu'en fait, on laisse le bois visible absolument partout. Donc quand il va rentrer, il va se sentir mieux parce que justement, ces grands voiles de bois, on va pouvoir les laisser visibles. Et ça va être absolument magnifique. Des grandes terrasses, de la nature à l'intérieur, de la vraie restauration bio, des clubs de sport. Des vrais clubs de sport. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des tours à la Défense. Les clubs de sport, on les mettait au moins deux. Les restaurants, on les mettait au moins un. Voilà, avec vue sur au mieux un petit bout de parking, mais généralement aucune vue. Aujourd'hui, on va mettre ces clubs de sport réellement en premier jour. On va leur faire jouer le premier rôle. Pareil pour la restauration, pareil pour les espaces où on va se retrouver.
Mais
c'est donc une révolution
rêve.
Complète. C'est probablement la plus grande révolution. Moi, j'ai 30 ans de métier, hélas, dans ce métier. C'est la plus grande révolution. On va la vivre maintenant.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 25 000 mètres carrés? Là, je parle aux professionnels de l'immobilier. Tout le monde ne va pas faire des travaux colossaux.
Ne vous inquiétez pas. Une ville comme Paris s'est réinventée et s'est reconstruite.
Je m'inquiète un peu pour les tours
de
la Défense.
On va probablement en faire beaucoup de logements. On va les réformer, on va les refaire, mais très clairement, il va y avoir énormément de changements dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et moi, je vois ça de la part des entreprises, parce qu'on reçoit maintenant des appels des entreprises qui disent « Je veux un siège bas carbone, tout en bois, travailler autour des thèmes du bien-être. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui ?»
Philippe, vous êtes inquiet pour Cœur Défense et tout ce qu'il y a autour?
Alors, nous, on travaille très peu dans le commercial, en fait. On est plutôt dans le particulier, donc je ne suis pas très inquiet. Une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, je pense qu'il y aura...
Si ça devient des logements, vous pourrez avoir un nouveau marché.
De toute façon, on est en manque de logements en France, donc de toute façon, c'est une très bonne chose. En plus, la construction va prendre un grand coup en 2020 et 2021, donc on sait qu'on a deux années noires qui arrivent, il manquera à peu près entre plus de 100 000 logements par an. Donc, de toute façon, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais de là à transformer toutes les vieilles tours de la Défense en logements...
Je ne pense pas que toutes les vieilles tours seront transformées en logements. Non, je pense qu'il y aura aussi des
certaines
qui vont continuer en bureau.
Je ne suis pas prête pour une révolution, ça va trop vite.
Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'on peut estimer que... Moi, j'ai essayé de faire des calculs ce matin. Entre 10 et 20% des surfaces vont certainement disparaître pour les bureaux. Parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait du télétravail... Sachant qu'une partie des surfaces, certainement, va être réutilisée pour d'autres usages. Voilà, des usages, justement, de rencontres, des usages de... Voilà, pour essayer de... comme on dit, effectivement, de mettre les équipes un peu plus en situation, je dirais, plus confortable.
Quand Guillaume Poitrinelle dit « Votre siège, ça sera un manifeste », il faudra qu'on voit tout de suite qui vous êtes, en fait, quand vous rentrez. Vous partagez cette idée-là ?
Alors, ça dépend des entreprises, peut-être. Nous, fonciers, en fait, mon siège n'est pas ma vitrine. Parce qu'en fait, nous, on a déjà 500 agences, et donc je préfère que ma vitrine soit à la fois plutôt nos agences, où on a quand même 8000 personnes, et aussi toute notre vitrine digitale, puisqu'on est en train de pousser énormément aussi des feux dans ce monde-là. Le siège... a peut-être moins de sens pour nous. D'autre part, c'est possible aussi que le siège puisse à un moment être géré éparpillé. C'est-à-dire qu'il y a pas... Peut-être que la notion de siège va peut-être disparaître, à mon avis, à terme, je pense. Parce que tout simplement, il y a des équipes différentes. Il y a les RH, l'informatique, la finance, etc. Mais qui forcément n'interagissent pas toujours ensemble. Et sur lesquelles on peut très bien imaginer à terme qu'à mon avis, ça peut très bien être dans un endroit différent, en fait.
Ça, j'y crois. Pour le coup, pas trop.
Vous n'êtes pas d'accord, ouais.
C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours, dans la boîte, il y aura toujours un siège. Vous voyez, Total se fait construire une tour, là, de 230 mètres de haut en ce moment, hein. Qui est assez bien faite, d'ailleurs assez moderne. Mais c'est un manifeste. C'est-à-dire que Total va quelque part dire quelque chose avec cette tour. Et dit, je suis Total, je suis la première capitalisation à la Bourse de Paris. J'ai une tour, c'est de la puissance. Donc, vous voyez, voilà. Il y a des groupes qui vont préférer aller sur des campus, autour de jardins, etc., pour eux dire, je suis bio, je suis bas carbone et j'envoie un autre message. Il y a des groupes qui vont dire, je préfère être sur des zones très petites, très urbaines, hein, on parlait du Marais tout à l'heure, parce que je suis jeune, je suis hype, je veux être au milieu de la ville avec des bars tout autour, et est-ce que, une fois encore, voilà, je veux mélanger, en fait, cette activité sociale avec cette activité. Donc, il y aura, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va bouger.
Ça sera notre mot de la fin, on voulait garder la tête froide, et en fait, ce n'est que le début de la révolution, c'est bien, ça nous fera d'autres émissions pour la suite. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.